Bonjour à tous, il est 8h pile, voilà, on fait des petits efforts sur Nowtech. Bienvenue sur le mug Nowtech numéro 244, nous sommes le 8h pile mais j'ai pas la date, hein. Nous sommes le 19 novembre 2020 et on attaque tout de suite. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Salut Technisavoir, salut Olek Impec, salut Tic Takumi. La Timothée est présente, armée de ses épées et de ses boucliers pour affronter les vilains sur la chatroom. Donc merci à vous d'être là. Salut Damien Dulot, salut Tails, bonjour à tous. Hein, bonjour. Petit disclaimer avant de commencer ce mug, pas un gros truc, mais... La caméra là actuellement, alors d'habitude elle est branchée sur le secteur, cette caméra, caméra incroyable, petit Lumix G7 des familles bien sûr. Le problème c'est que mon adaptateur secteur de ce petit Lumix a décidé de rendre l'âme, donc paix à son âme. Donc je suis sur batterie. Et le truc rigolo c'est que je suis sur batterie, mais je n'ai plus le chargeur des batteries, ou en tout cas je ne l'ai pas retrouvé. Donc, vous avez de la chance parce qu'il y avait, j'ai deux batteries que j'ai trouvées dans les fonds des tiroirs, donc il y en a encore une ici. Voilà, c'est pas sûr que ça tienne tout le live, parce qu'il reste une barre de batterie. Donc je tiens sur les réserves, il y a le chargeur secteur qui arrive avant la fin de la semaine, donc on va, voilà, on va pouvoir rebrancher le petit Lumix. Au moins je suis content qu'il fonctionne et que ça soit qu'un problème de batterie, hein, d'alimentation. Mais effectivement, à un moment, on risque de passer sur, voilà, sur la petite Logitech. Hein. On est quand même sur une qualité moins sympathique, mais on fera comme ça. Salut, bonjour à tous. Voilà, donc je préférerais garder cette caméra quand même, mais voilà. Bonjour à tous, salut Nicolas Nota Bene, merci pour ton abonnement. Est-ce que tu es le Nota Bene ou pas? Parce que si tu es Nota Bene, voilà, je suis un grand fan, j'aime beaucoup ta chaîne. Voilà, allez hop, c'est dit, on en profite, c'est incroyable. Salut Melmox, salut Kenshiro, bonjour à tous. Aujourd'hui, Guillaume Slash en mode sans parachute. Ah ouais, là, il n'y a absolument pas de... Il n'y a absolument pas de parachute, mais c'est pas grave. On aime le risque chez Nowtech, on aime on aime tout ça. Et on va attaquer sur un Kawa, mesdames et messieurs, un Kawa assez chargé. On va parler encore une fois un petit peu d'Amazon. On va parler des Mac M1 avec processeur M1. On va parler de Facebook, d'Apple versus Spotify, Epic, tout ça. Et un petit peu d'iOS. Et à la fin, on va reparler de vie privée. C'est incroyable. C'est parti pour le Kawa. Alors, je me suis rendu compte que le générique du Kawa était peut-être un peu faible. Dites-moi si le son est bon, parce que j'avais des petits soucis de saturation au niveau du micro. Donc voilà, dites-moi si le son est bon, si les transitions sont pas trop fortes, nickel. Mon maire Eric Piolle en campagne pour 2020 a critiqué Amazon. Mais je pense, tu sais Guillaume, que c'est un... Comment dire, que à mon avis, c'est assez populaire, hein, dans le milieu politique de critiquer Amazon. De toute façon, on va en parler juste maintenant. Dans une news, hein, Michel-Édouard Leclerc qui ironise sur la pétition anti-Amazon. Pétition signée par de nombreuses personnalités, hein, dont l'ancienne ministre de l'Environnement Delphine Bateau, députée de la France Insoumise François Ruffin, la maire de Paris, Anne Hidalgo, ou le chansonnier François Morel, donc des personnalités politiques ou pas d'ailleurs, qui ont signé cette pétition anti-Amazon. Ils y dénoncent la croissance démesurée d'Amazon, tant sur le plan économique qu'environnemental et social, et appellent à ne pas faire les cadeaux de Noël en ces fêtes 2020 sur la plateforme d'e-commerce. Hein. Bon, on ne va pas en reparler en détail, parce qu'on en a déjà parlé plein de fois dans l'émission, plein de fois dans le mug, donc je ne vais pas refaire tout le débat. J'avais même fait une tartine sur Amazon. Jérôme aussi a beaucoup donné son avis, et globalement, on est plutôt d'accord avec Jérôme. Après, voilà, il y a un truc qui m'a fait un peu tiquer dans ce qu'a dit Michel-Édouard Leclerc, donc je voulais y réagir, hein, c'est pour ça que j'ai pris l'article. Donc, Michel-Édouard Leclerc affirme que cette histoire de pétition, ça le fait sourire, parce que, ben, en fait, c'est 53% des Français font des achats sur Amazon. Donc, encore une fois, la stratégie de dire on vous fait culpabiliser, n'achetez pas sur Amazon, je suis pas très convaincu que ça va vraiment fonctionner. Je pense que la majorité des gens continueront d'acheter même un ou deux produits sur Amazon. Donc, globalement, je ne suis pas du tout convaincu. Je pense que c'est là où on se rejoint avec Jérôme, c'est que c'est à la loi de changer, c'est à la loi de faire en sorte qu'Amazon joue avec les mêmes cartes, enfin que tout le monde joue avec les mêmes cartes, hein, de faire en sorte que la concurrence soit bien assurée. C'est vraiment ça qui est le plus important. Il n'y a pas Amazon en Suisse, la question est vite répondue. Il n'y a pas Amazon en Suisse? Ouais, mais tu dois pouvoir commander sur Amazon Allemagne, sur Amazon France et tout ça, non? De toute façon, on critique les Américains ou les Chinois, mais chez nous, on n'a rien, aucun protectionnisme et les gens se plaignent. Oui, bon, après, les gens se plaignent, certaines personnes critiquent aussi avec équilibre. Enfin, voilà, il y a de tout. Hein. Comme il n'y a pas Amazon en Belgique. Sérieux? Il n'y a pas Amazon en Belgique et en Suisse? Putain, je ne savais pas. On peut éviter au max d'acheter sur Amazon par conviction. Non, mais voilà, après, ce qui est intéressant, et c'est ça qui est important de bien comprendre, c'est que on peut quand même avoir des gestes comme l'environnement, comme ce genre de choses, comme certaines démarches politiques. On peut décider personnellement de minimiser Amazon, de prendre le temps de chercher s'il n'y a pas des alternatives sur d'autres sites. Mais fondamentalement, c'est aussi un luxe de pouvoir faire ça. Dans le sens où moi, si je peux faire ça, de prendre le temps de regarder s'il n'y a pas le produit sur la Fnac, s'il n'y a pas le produit sur d'autres personnes. Déjà, c'est parce que je sais le faire, déjà, et que j'ai le temps de le faire. Ce qui n'est pas le cas de monsieur et madame tout le monde, beaucoup de personnes ont des métiers qui sont certainement plus fatigants, en tout cas physiquement, que les métiers que j'exerce, hein, que ça soit donc chroniqueur sur le mug, que ça soit développeur web. C'est des métiers qui sont fatigants intellectuellement, mais pas fatigants physiquement. Donc j'imagine très bien une personne qui est sur des chantiers toute la journée, elle rentre, elle n'a pas du tout envie de se poser la question en mode « est-ce que j'achète sur la Fnac, sur Amazon, sur machin ?» Elle va aller au plus simple et c'est normal, je lui en veux pas, c'est évident. Enfin, voilà, voilà, vous avez compris un petit peu mon avis. Je viens de demander à Google, Amazon livre en Suisse. Oui, voilà, Amazon livre en Suisse, mais il n'y a pas de Amazon Switzerland. Et l'argent, mais même pour un produit, si je peux économiser les frais de port et le ressort en prime en 2 jours, désolé, je le fais. Mais c'est, en fait, t'as pas à t'excuser, tu fais le choix qui est effectivement on va dire le plus cohérent avec ce que tu as acheté et tout ça. Donc, c'est pas. Enfin, moi, jamais je vous ferai culpabiliser là-dessus. Après, il faut avoir conscience qu'effectivement, c'est ce que j'avais dit sur ma tartine, que Amazon, c'est pas un enfant de cœur. Et que en achetant sur Amazon, c'est in fine une forme d'encouragement de certaines pratiques, malgré vous. Donc, c'est ça aussi qu'il faut avoir en compte. Mais il ne faut pas non plus culpabiliser. Enfin, c'est tout cet équilibre-là qui est difficile à trouver. Et c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Il n'y a pas de réponse claire. D'ailleurs, Capital, je vous regarde droit dans les yeux, hein, capital.fr, je vais vous montrer tout de suite. Faire des sondages, des débats qui sont « L'entreprise Amazon fait-elle du mal à l'économie française ?» Oui, non. Merde. Mais qu'est-ce que c'est que ce débat ? Sans déconner, putain, mais enfin, pour moi, c'est vraiment abaisser le niveau intellectuel d'un débat. On ne peut pas répondre oui ou non à ça. Parce que Amazon, on peut dire que oui, ça fait du mal à l'économie française sur certains aspects, parce qu'il y a une forme de concurrence déloyale, il y a des choses qui ne sont pas géniales. Mais non, parce que ça crée aussi des emplois, parce que ça permet à des vidéastes comme peut-être vous, mais moi, ou Jérôme et tous les youtubeurs partageront cet avis, d'acheter du matos de production vidéo à des prix très intéressants, prix qui permettent justement de créer de l'emploi, de créer une entreprise, enfin plutôt dans ce sens-là, de créer une entreprise, de créer de l'emploi, de s'acheter des lumières pour 40-50 euros, ce qui est quand même pas cher, parce que quand on va en magasin, et je suis allé en magasin déjà pour acheter de la lumière et des choses comme ça, donc voilà, mais le prix n'est pas le même, le choix est beaucoup moins important, donc... Ce que je veux dire, c'est que ce genre de débats sont nuls à chier, en fait. Enfin, désolé, Capital FR, j'aime beaucoup votre article et il n'y a pas de problème, mais le niveau intellectuel ne peut pas être très élevé avec un débat comme ça. Je dis pas que je suis que je suis le meilleur. Voilà, j'ai aussi beaucoup de failles. Et des fois, on a sûrement, peut-être même sur Naotech fait des sondages comme ça. Je critique, mais je clique, comme on dit. Mais là, je trouve que c'est, enfin, polariser le débat à oui/non, c'est juste nul, quoi. Enfin, bon, voilà, c'était un peu mon avis. Et donc, oui, ce que disait Michel-Édouard Leclerc, qu'on avance un petit peu, parce qu'il est déjà 10, ce que disait Michel-Édouard Leclerc par rapport à tout ça, c'est un truc qui me fait tiquer. C'est qu'il dit, cette histoire de pétition, ça le fait sourire, et il s'en prend aux signataires. Et si les signataires, écrivains, cinéastes, politiques, commençaient déjà par demander le retrait de leurs œuvres en vente sur le site d'Amazon, avant de lancer un chiche. Et moi, je suis là, c'est comme les gens qui nous critiquent parce que on critique Amazon, on critique Google et qui nous disent « Oh là là, vous critiquez, mais oh, vous y êtes dessus, hein, vous utilisez YouTube et tout, donc ça critique, machin. » Cet argument, il m'énerve parce qu'en fait, justement, on critique souvent, on peut pas partir de YouTube. Je veux dire, le business model de Nowtech et le fait de pouvoir diffuser les vidéos, justement, on n'a pas le choix. C'est un problème, mais on n'a pas le choix. On ne peut pas mettre des vidéos sur Peertube, on ne peut pas. On peut le faire, mais je veux dire, c'est pas là où il y aura l'audience. Donc dire, ouais, mais vous critiquez, mais vous êtes sur YouTube. Putain, c'est mal comprendre la situation dans laquelle on est. On ne peut pas quitter. Justement, et j'ai envie de vous dire. C'est justement ça qui est intéressant, c'est que on utilise la, enfin intéressant. C'est ça qui est un peu rigolo, c'est qu'on utilise la plateforme YouTube, donc Google, et on peut critiquer dessus et cette critique peut être entendue. Et justement, moi je trouve que heureusement que qu'on peut rester dessus. Enfin bon, bref, voilà. Par contre, ils pourraient largement retirer leurs produits d'Amazon. Mais non, en fait c'est le même problème. Je fais le parallèle donc avec ça. Je suis un homme ou une femme politique, j'ai mon message à véhiculer. Non, je vais totalement mettre mon livre sur Amazon, même si je les critique. Pour la simple et bonne raison qu'effectivement, si je veux diffuser mon message aujourd'hui, je suis obligé d'avoir une présence sur Amazon. Parce que beaucoup, beaucoup de gens vont chercher le livre sur Amazon et vont acheter sur Amazon. Malgré le fait qu'on puisse critiquer Amazon sur plein, plein de choses. C'est normal de vouloir être vu. Quand on diffuse une idée, quand on veut parler d'un sujet, quand on veut parler de tech dans notre cas, même tech un peu politique, hein, on en parle beaucoup. Donc non, on ne va pas retirer les vidéos YouTube parce qu'on a des critiques à l'égard de Google, ou on ne va pas arrêter de stream sur Twitch parce que Amazon, il y a des soucis. C'est évident que non. N'oublions pas qu'Amazon permet à des milliers de petits commerçants d'avoir une présence en ligne et leur permet de vendre leurs produits en ligne. Il apporte donc beaucoup à l'économie. En fait, c'est simple. C'est que c'est pas simple. C'est simple parce que c'est pas simple. Non, ce que je veux dire, c'est que tous ces débats-là, on ne peut pas les résumer à je suis pour Amazon ou je suis contre Amazon. C'est extrêmement complexe. Amazon apporte des choses géniales. J'ai parlé de notre cas sur YouTube, quand on démarre YouTube, effectivement, les petits commerçants. Après, Amazon apporte aussi des choses très négatives. Il y a des conditions de travail qui ne sont pas géniales. Ils empêchent le syndicalisme de se créer, surtout aux États-Unis. Il y a des choses crado, il y a des choses géniales. Donc, comme beaucoup de sujets, on ne peut pas résumer la question à c'est bien ou c'est pas bien. Et je vous invite à ne pas le faire parce que, comme énormément de débats, juste dire je suis pour Amazon, je suis contre Amazon, ça n'a pas de sens. Voilà. Je relis un tout petit peu l'article pour voir si j'ai rien oublié. Oui, Monsieur Leclerc aussi, il dit jouer les uns contre les autres, comme en d'autres temps les VTC contre les taxis, ou aujourd'hui les commerçants essentiels contre les non-essentiels, ça n'aboutit généralement à rien. Je suis globalement d'accord. Je pense que l'exemple de Uber versus les taxis n'a que apporté de la friction et de l'incompréhension et surtout une mauvaise vision. Enfin, les utilisateurs aujourd'hui, je le vois autour de moi, les gens rentrent en Uber. Les gens ne prennent pas de taxi. Les gens prennent un Uber. Et les gens prennent un Uber, je pense que c'est même pas forcément pour le prix, c'est tout simplement pour la simplicité de l'application. Qu'est-ce que tu dis, Ultralog? C'est plus pratique et moins cher, donc on n'a pas le choix. Désolé, pas du tout d'accord, j'arrête là. Bisous, à plus. Pas de problème. Ultralog, tu as le droit d'avoir ton avis. En fait, Ultralog, c'est là où on dit pas la même chose. Moi, ce que je te dis, c'est que les gens vont sur Amazon parce que c'est. Enfin, le consommateur va au plus simple. Après, individuellement, évidemment, tu peux faire des choix qui sont, on va dire, meilleur pour la société, pour la planète. Mais au-delà de ça, le consommateur va toujours, toujours au plus simple. Je reformule. La majorité des consommateurs vont aller au plus simple. Je prends un autre exemple. Dans ta rue, tu as un petit restaurant qui est à deux pas de chez toi, est un meilleur restaurant, mais il faut marcher 1,5 km. La majeure partie du temps, tu vas aller dans le restaurant qui est OK et qui est juste à côté de chez toi. Parce que tu vas avoir la flemme de marcher ton 1,5 km. Pourquoi Uber Eats fonctionne autant? Alors que, on le sait, les conditions de travail des chauffeurs, des conducteurs Uber Eats ne sont pas exceptionnelles. Parce que tout simplement, Uber Eats, c'est simple. En trois clics, tu as ta bouffe. Point. Voilà, ils ont gagné le game. C'est tout. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Je dis simplement qu'ils ont compris que le consommateur veut aller au plus simple. C'est là où on parle pas de la même chose. Ton pseudo, excuse-moi, Ultralove. C'est vraiment, vraiment ça qui fait la différence. C'est ça qu'il faut comprendre. On a toujours le choix, c'est trop facile de dire que c'est parce que c'est moins cher. Bicri, je suis pas d'accord non plus. Quand tu démarres sur YouTube, tu n'as pas du tout souvent les moyens d'acheter de l'excellente lumière ou d'acheter de la lumière qui coûte plus de 100 balles. Et Amazon te permet de faire ça. Mais je dis pas que... Attention, la dernière fois, j'avais critiqué Amazon et je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont crado chez Amazon. Donc voilà, on va avancer. Et on va parler des Mac M1 qui ont montré quelque chose d'assez génial. Je vais vous montrer tout de suite le petit screen sur Vivaldi. Oui, effectivement, attention au spam dans le chat, hein, de pas monopoliser la chatroom, les gens. Ouais, on va changer de débat parce que sinon on va y passer toute la tout le mug. Donc oui, je voulais parler un petit peu des Mac M1, donc avec le processeur M1, et d'une équipe qui s'appelle, que je connaissais pas, Codeweavers, quoique non, je dis que je connaissais pas, mais en fait maintenant en le relisant, si Codeweavers, c'est ceux qui font VM Player, non, c'est ceux qui font de l'émulation sur Linux. Je suis trop con, au début je disais mais merde, je connais pas, mais en fait si. Codeweavers, c'est ceux qui font des logiciels d'émulation et ils ont un logiciel qui s'appelait Crossover. Par contre, Crossover, je connaissais pas du tout. Et Crossover qui permet d'émuler du Windows, alors qui permet pas d'émuler le système entier Windows, mais qui permet d'émuler le cœur de Windows, on va le simplifier comme ça, sur macOS, sur Linux, et en fait sur les Mac M1, ils utilisent la technologie donc Rosetta 2, hein, qui permet d'émuler des commandes x86, enfin en gros de d'émuler des programmes faits pour les anciens processeurs, enfin les processeurs Intel, et ils permettent d'émuler ça sur les Mac M1, et ce qui permet notamment, ils ont fait la démo, ce qui permet de lancer des logiciels Windows, évidemment non supporté sur Mac, et notamment l'exemple donné ici, c'est du Team Fortress 2. Alors ça tourne pas parfaitement, mais ils sont quand même à une étape pour l'instant plutôt de développement, hein, donc on n'est pas du tout à une étape de version finale du logiciel, mais ils ont fait la démo avec Team Fortress 2 et ça tourne quand même plutôt pas mal, en sachant que Team Fortress 2, bon, c'est pas un jeu qui est très violent graphiquement, mais la prouesse technique est assez, assez géniale. Donc, je voulais vous le montrer. Le monde PC va tellement galérer à faire la transition vers ARM. En fait, le truc, c'est que je me dis que comme Apple pousse derrière, je pense que la transition va être moins violente et moins problématique que ce qui s'est passé dans le futur. Hein. Tout ce qui était émulation Windows sur des ARM, avant, c'était très compliqué. Et je pense que le fait qu'Apple ait poussé les processeurs Mac M1, les processeurs M1, pardon, les ordi Mac M1, ça va accélérer beaucoup, beaucoup les choses. Team Fortress 2, ouais, j'ai un peu joué à Team Fortress 2, c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi. Ciao, Technisavoir, bonne journée à toi. Alors, Hippomony, tu dis, j'espère que ça sera mieux que leur version précédente, car c'était une vraie purge, et ça marchait globalement mal, Crossover, leur logiciel. Donc, je connais pas du tout, moi, Crossover, jamais utilisé. J'ai commandé, tu dis quoi, capturer l'instant? J'ai commandé un mini 16 gigaoctets de RAM et 512 de stockage, ok. 23 décembre, la livraison, va falloir être patient. Eh bien, bon courage à toi pour ta, et bonne patience à toi. On va repasser sur la caméra. Tu penses quoi du M1 en tant que développeur web? Je te conseille d'attendre un petit peu. De toute façon, sur les transitions comme ça, et à partir du moment où c'est votre machine de productivité, n'achetez pas le nouveau produit avant au moins un an. Laissez les autres essuyer les pots cassés. Moi, je te dirais que pour l'instant, ne te sens pas pressé. Par contre, je pense effectivement que développer sur du M1 va être très sympa pour toute la partie accélération, toute la partie fluidité que ça va apporter, hein, dans le système. Voilà. Je remonte un petit peu dans vos messages. D'après les premiers retours, les M1 enterrent tout, même avec des vieux Mac haut de gamme, avec un simple MacBook Air. Vous allez en avoir chez Naotech. Pour l'instant, ce n'est pas prévu sur Naotech. J'aimerais bien le tester, mais on est un peu hors budget pour l'instant, donc ce n'est pas du tout prévu. Mais à titre personnel, j'aimerais bien le tester, moi. J'aimerais bien tester du Mac M1, ouais. Mais effectivement, les benchmarks, on en a parlé, donc je ne vais pas réitérer là-dessus, mais les benchmarks ont l'air d'être extrêmement prometteurs. À partir du moment où les logiciels tournent et tout ça, ça a l'air d'être du bon taf qu'ils ont fait Apple, hein, clairement. Clairement, clairement, clairement. On va avancer et on va parler de Facebook et des modérateurs qui ont passé un message dans la presse parce qu'ils n'étaient a priori pas écoutés par les haut placés, on va dire, de Facebook. Donc 200 modérateurs chez Facebook, 200 employés de Facebook, ont pressé Mark Zuckerberg, ont demandé à Mark Zuckerberg de les laisser travailler depuis chez eux durant la pandémie. Parce qu'aujourd'hui, ces 200 modérateurs travaillent au bureau, vont au bureau pour faire de la modération, alors qu'on est bien d'accord que s'il y a bien un travail qui peut être totalement dématérialisé, c'est bien la modération sur du réseau social. Donc, je vous lis un petit peu la news. Plus de 200 employés qui font de la modération, enfin des community managers, quoi. Enfin non, c'est pas la même chose. Non, vraiment des modérateurs, c'est pas exactement la même chose. Donc, des personnes qui sont à la fois aux États-Unis et en Europe ont écrit une lettre ouverte à Mark Zuckerberg en lui demandant de travailler depuis chez eux pour cette pandémie du coronavirus. Nous, l'équipe de modération de Facebook, nous vous écrivons aujourd'hui pour vous exprimer notre besoin vital de ne pas risquer nos vies et de travailler depuis chez nous. Voilà, je traduis en même temps, ça vient de l'anglais, donc c'est pas forcément évident. Après des mois où vous nous avez permis effectivement de travailler depuis chez nous, avec énormément de pression et des conditions de travail difficiles parce qu'il y a beaucoup de haine et de désinformation sur les réseaux sociaux, donc un travail difficile, vous nous avez forcé à revenir au bureau. Voilà. Et les modérateurs demandent à Facebook donc de maximiser le travail à la maison, et surtout aussi dans la lettre, ils en ont profité pour demander un vrai, comment on appelle ça, healthcare, c'est une vraie couverture médicale et des soins psychiatriques, une protection psychiatrique. Ce que je trouve extrêmement important. Parce qu'on ne se rend pas vraiment compte encore aujourd'hui, enfin quoique si, on commence, mais être modérateur, surtout je pense sur Facebook, ce sont des métiers qui sont extrêmement violents pour l'esprit. Qu'est-ce que tu dis, Flomassol? Tout le monde oublie AMD, c'est bizarre, aujourd'hui c'est eux le concurrent, pas Intel. Par rapport quoi, au Mac? Bon, on va changer de sujet. Voilà, bon, c'était juste pour vous parler un petit peu de ça. Ils ont été, ils l'expliquent dans la news, ils ont été obligés de rendre cette lettre publique parce qu'ils n'étaient pas écoutés et ils étaient obligés d'aller travailler justement au bureau. Et effectivement, je ne peux qu'acquiescer, je trouve que... Alors, on n'a jamais tout le détail des histoires, donc c'est un petit peu compliqué, mais sur ce que je lis, si je devais me prononcer, effectivement, je trouve que déjà que le travail est effectivement compliqué, ne pas laisser la possibilité à ses employés de travailler de chez eux, enfin, prendre le risque de contracter le Covid pour du travail de community, de gestion de contenu, de modération, me paraît... le fait de les forcer à aller au bureau, ça me paraît complètement exagéré et c'est un risque inutile et je ne comprends même pas pourquoi Facebook ne les a pas laissés travailler chez eux parce que là, clairement, ça va les mettre dans la sauce. Enfin, ça fait un nouveau scandale pour Facebook, pour pas grand-chose, pour une décision qui n'est pas très compliquée, je pense. Vraiment, je ne vois pas ce qui est bloquant là. Je réfléchis autant dans certains... Ah, ma caméra est morte, yes. Je vous avais prévenu, hein. Je vous avais dit que la caméra allait... voilà. Mais le backup est présent, j'avais anticipé le truc. Donc ouais, je comprends vraiment pas ce qui fait que là, Facebook fait ça, quoi. Je comprends pas du tout ce qui les force à faire ça. Pas sûr que niveau cybersécurité, ça passe. Je ne pense pas que le problème soit de la sécurité. Je pense que le problème vient toujours de la même chose, vient que certains managers, pas tous évidemment, mais la plupart des managers ont un peu le besoin de voir leurs équipes. Alors, pas que d'un point de vue négatif, hein, je dis pas en mode méchant manager, non, pas du tout. Je dis juste que voilà, il y a un côté aussi où effectivement, quand tu vois des gens en présentiel, tu as un échange d'informations qui va plus vite, tu peux discuter plus rapidement, tu peux gérer des équipes plus facilement, tu peux aller voir plus vite quelqu'un pour lui dire tiens, mets-toi à côté de cette personne pour travailler. Enfin, il y a quand même des avantages, et ça, c'est le fait d'avoir bossé depuis plus d'un an là, dans l'entreprise où je suis. Il y a des avantages à ce que le manager et les équipes soient en présentiel, hein. Je ne suis pas, à titre personnel, pour un télétravail à 100%. Sauf, bien sûr, pour la situation de pandémie dans laquelle on est. Mais voilà un petit peu mon avis là-dessus. Mais effectivement, dans notre contexte, il faut faire du télétravail le plus possible quand même. Par contre, un bon son est préférable à une image. Oui, je pense que le son est toujours à peu près bon, hein. Peut-être des données personnelles exposées dans un lieu où il peut y avoir d'autres personnes que les employés. Je pense pas. Enfin, Facebook est totalement capable de donner un ordinateur de travail et de le protéger. Je regarde la mauvaise caméra, j'ai trop le réflexe. Et de le protéger, cet ordinateur. Donc je ne pense pas que le problème soit un problème de sécurité. Voilà, ben, Bicris, tu le dis. Sûrement des questions de confidentialité et d'inquiétude à savoir s'ils vont vraiment travailler autant que sur place. Pour moi, c'est une vision rétrograde du travail. C'est qu'à partir du moment où tu as des équipes, tu fais confiance à tes équipes ou tu as une ambiance de travail complètement malsaine. Les bons managers, justement, sont censés pouvoir faire confiance à leurs équipes et pas partir du principe qu'il faut les fliquer pour qu'ils puissent bosser bien. Je suis effectivement totalement partant de... Enfin, quelqu'un... En fait, moi, j'ai un peu la vision de quelqu'un qui veut pas bosser, il bossera pas. Et il trouvera toujours le moyen de gruger un peu. Donc, autant instaurer un dialogue où tu fais confiance et où tu... voilà, tu amènes une bonne ambiance de travail. Tout simplement. Nous allons parler, mesdames et messieurs, du sujet qui va fâcher ce matin. Aïe, 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 aïe. Déjà qu'on a reparlé d'Amazon et c'est des sujets qui sont quand même un peu complexes. Aujourd'hui, nous allons parler, vous avez sûrement pas raté cette news, nous allons parler d'Apple et Apple qui baisse sa commission de l'App Store à 15% pour les petits développeurs. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Excusez-moi. Le 18 novembre, donc hier, Apple a annoncé un nouveau programme pour les développeurs qui publient des applications sur l'App Store. Ce programme s'appelle le Small Business Program. Il concerne tous les développeurs réalisant moins $1 million de chiffre d'affaires sur l'App Store pendant une année calendaire. La seule différence avec le programme classique est de taille. La commission prélevée par Apple sur les ventes d'applications ou de paiements in-app passe à 15% au lieu des 30% standards dans l'industrie et pratiquée par Apple. Ce programme sera lancé le 1er janvier 2021 et les développeurs concernés pourront y entrer en fonction de leur chiffre d'affaires sur l'App Store de 2020. Le passage de l'un à l'autre des programmes est particulièrement flexible. Faire une année record dépassant le seuil fera passer un développeur dans le programme classique. Même si ses revenus baissent l'année suivante, il retournera dans le programme Small... Mais si ses revenus, pardon, baissent l'année suivante, il retournera dans le programme Small Business. Ce sont les revenus de l'année écoulée qui le font passer sur un seuil ou sur un autre. Avoir gagné par exemple $900 000 en 2020 sur l'App Store, hein. Pas les revenus généraux d'une entreprise, hein. Vraiment, il faut bien avoir ça en tête, c'est les revenus sur l'App Store. Ces revenus permettra donc aux développeurs de commencer 2021 avec une commission de 15% sur ses ventes. S'il dépasse $1 million au cours de l'année, excusez-moi, la commission des 30% s'appliquera à toutes les ventes réalisées jusqu'à la fin de l'année. De la même manière, si son chiffre d'affaires baisse de nouveau, il retournera à 15% l'année suivante. Voilà. L'idée derrière ce programme n'est d'ailleurs pas tant d'arranger les développeurs qui sont proches du $1 million de revenus que de faciliter l'arrivée de nouveaux développeurs qui n'ont pas encore les reins solides. Donc effectivement, Apple fait ça pour à la fois essayer de calmer le jeu par rapport à toute la problématique, tout le débat qu'il y a eu autour d'Epic Games, et à la fois pour attirer de nouveaux développeurs, pour montrer un petit peu patte blanche. Tu dis quoi, Guillaume ? Sur le Microsoft Store, les commissions, c'est 5%. On va reparler un petit peu de 5% juste après. Oh, la petite émoticône de canard PC. La pomme est de gauche maintenant. Il faut également noter deux choses sur ce programme. D'une part, la baisse de commission... oui, donc c'est ce que je vous ai dit, c'est appliqué uniquement sur les revenus de l'App Store. Et le seuil est calculé en dollars. Donc c'est 1 million. Merci Morphneo. Il faut bien comprendre que c'est 1 million de dollars, hein, le seuil. Sauf qu'Epic Games n'en bénéficie pas. Ouais, Epic Games ne va pas bénéficier effectivement de cette réduction. Donc par rapport, si on devait faire la conversion en euros, le seuil c'est 850 000 euros de chiffre d'affaires au taux actuel du dollar. Alors évidemment, vous vous doutez bien que la réaction ne s'est pas fait attendre. C'était prévisible, ni Epic ni Spotify n'applaudissent la décision d'Apple de baisser sa commission pour les petits développeurs, la passant donc à 15% au lieu de 30%, ce que je viens de vous expliquer. Pour eux, cette manœuvre n'est que la démonstration que la taxe imposée par Apple est injuste. Je cite « Il y aurait lieu de se réjouir si Apple n'avait pas pris la décision calculée de diviser les créateurs d'applications et de préserver son monopole sur les magasins et les paiements, rompant ainsi une fois de plus la promesse de traiter tous les développeurs sur un pied d'égalité », a lâché Tim Sweeney, le patron d'Epic. La charge n'est pas différente chez le géant suédois de la musique à la demande. Alors je sais que beaucoup de gens parmi vous n'aiment pas Spotify, mais je trouve que Spotify est vraiment le plus légitime à se plaindre de toute cette problématique là, parce que Apple a Apple Music et permet de proposer son forfait à 10 euros par mois, alors que Spotify, bah, il a son forfait aussi, mais pour générer le même chiffre d'affaires, il est obligé de monter les prix de 30%, il est obligé de monter les prix de son abonnement de la commission d'Apple. Donc en gros, il est obligé, pour générer le même chiffre d'affaires, il est obligé de proposer son abonnement à 13 euros par mois, au lieu de 10 euros par mois chez Apple Music. Et je suis désolé, mais ça, vous pourrez me dire ce que vous voulez, mais je trouve que ça, c'est vraiment une pratique anticoncurrentielle. Spécifiquement ce cas-là, c'est le cas où je ne vois pas comment on pourrait débattre sur ce point-là. Spécifiquement, c'est totalement anticoncurrentiel. Et je m'imagine, moi, je veux lancer un service de streaming de musique, je pèterais un câble sur le fait qu'il y ait cette commission, alors qu'Apple Music ne l'a pas. Voilà un peu mon avis là-dessus. Donc je cite le patron de Spotify, « Cette dernière initiative démontre une fois de plus que la politique de l'App Store est arbitraire et capricieuse. Nous espérons que les régulateurs ignoreront l'attitude factice d'Apple et agiront de toute urgence pour protéger le choix des clients, garantir une concurrence loyale et créer des conditions équitables. » Il faut savoir qu'il n'y a pas que Spotify et Epic, hein, parce que je sais que parmi vous, beaucoup de gens ne les aiment pas pour tout ce qu'ils ont fait, mais il y a aussi Tinder, Mythic et Deezer qui se sont rassemblés au début de l'automne dans une alliance contre les pratiques d'Apple, hein, la Coalition for App Fairness. Trois problèmes sont formulés. Le manque de liberté pour les mobinotes, c'est un mot que j'avais pas vu depuis longtemps, mais pourquoi pas. Les stratégies mises en place par le géant de l'électronique grand public pour entraver la concurrence. Et la commission, ça c'est vrai, Apple a eu beaucoup de pratiques anticoncurrentielles par le passé, hein, très honnêtement. Bref, on va avancer. Et la commission des 30% sur la valeur de certaines transactions utilisant le paiement in-app fourni par Apple. Moi, je voulais vous citer aussi l'exemple. Vous savez que j'abonde un peu plus dans un sens, hein. Vous savez que sur ce débat-là, je ne suis pas neutre, mais sur Nowtech, on n'est pas forcément une émission où on est neutre, hein. On prend parti sur certains sujets. Et moi, effectivement, je penche plutôt du côté... Pourtant, j'aime beaucoup Apple, hein. Je veux dire, certains vont me critiquer. Les gens, enfin, je pense que vous avez vu dans mes anciennes vidéos ou même dans tout ce qu'on fait sur Nowtech, Apple est une marque que j'aime énormément. Mais c'est justement parce que je l'aime bien que je la critique. Ça, j'ai remarqué, c'est un truc qu'il y a pas mal de personnes qui ont tendance à mal comprendre ça, à avoir l'impression que soit on est pro-Apple, soit anti-Apple, soit on est juste, on les critique pour rien, ou soit on les encense pour rien. Non, j'adore Apple. J'adore beaucoup les produits Apple. Mais c'est aussi pour ça que je les critique, parce que je trouve qu'ils ont des pratiques qui sont complètement crado. Et j'aimerais qu'Apple s'ouvre beaucoup plus sur ces choses-là. Donc je voulais vous citer l'exemple de ProtonMail. ProtonMail qui a justement témoigné dans un article, hein, mais j'en avais parlé je crois dans l'émission, donc je le répète, que les frais excessifs, je cite, hein, les frais excessifs d'Apple ont obligé de ProtonMail à augmenter les prix dans l'App Store, rendant ainsi nos applications accessibles à moins d'utilisateurs et plus coûteuses pour tous les utilisateurs. Et pareil, on se met à la place de ProtonMail, c'est chiant. Parce que tu donnes l'illusion que ton service, si tu es utilisateur d'iPhone, et tu te dis, putain, ProtonMail, ça a l'air stylé et tout, vas-y, go. Et bien, tu donnes l'illusion à tes utilisateurs que ProtonMail, c'est plus cher que ce que ça en est vraiment. Et pareil, je trouve que c'est une pratique qui n'est pas géniale du tout. Et je le redis aussi, hein, vous seriez sur Windows et Microsoft forcerait son store d'applications, vous pèteriez un câble. Vous direz, mais c'est dégueulasse, mais sur Windows, moi, avant, j'installais mes applications, mes points MSI, enfin, tous les installateurs d'applications. Maintenant, je suis obligé d'installer par le Microsoft Store. Et si vous êtes développeur, vous êtes obligé de publier votre application sur le Microsoft Store. Pourquoi sur Windows, les gens pèteraient un câble, alors que sur iOS, les gens pètent pas un câble? Et pour moi, la simple et bonne raison, c'est que tout simplement, on s'est habitué. on s'est tout simplement habitué sur l'App Store à ce que y ait l'écosystème Apple, que tout soit la belle cage dorée. Alors, cage dorée que j'aime beaucoup aussi, hein, et que j'ai utilisé Apple Music pendant longtemps, et j'ai beaucoup apprécié l'intégration avec le HomePod. Donc voilà, je ne suis pas contre totalement cette cage dorée, mais quand même, je trouve que la commission, même à 15%, continue d'être élevée. Et justement, ProtonMail, pour les citer eux, qui sont les mieux placés, beaucoup mieux placés que moi pour en parler, ProtonMail suggère que cette commission ne devrait pas excéder 5%. Et c'est là où je vais en venir à un point. Je suis convaincu qu'il va bientôt y avoir une loi, enfin qu'on va bientôt légiférer, pour que les commissions sur des stores, pour avoir une meilleure concurrence, enfin pour éviter d'avoir des pratiques concurrentielles, je suis convaincu, je prends un pari, voilà, j'espère ne pas me gourer là-dessus, mais je prends un pari que d'ici 5 à 10 ans, 5 ans, allez, 5 à 10 ans, c'est un peu large. D'ici 5 ans, on va légiférer sur le fait que des stores ne puissent pas dépasser un certain pourcentage de commission pour garantir justement une équité entre les plateformes. Voilà. Et ProtonMail suggère que cette commission ne devrait pas excéder 5%. J'ai pas le chiffre en tête, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais moi, effectivement, à titre personnel, je trouve qu'au-delà de 10%, on est un peu dans l'abus. Et 30%, c'était énorme. 30%, c'est vraiment, vraiment énorme. Voilà un peu pour mon opinion. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. J'ai vu dans le chat, je sais dans le chat qu'il y a des gens qui disent « Mais l'App Store, ça permet d'avoir des applis de qualité. » Moi, je ne suis pas du tout convaincu de ça. Dans le sens où sur Windows, sur Mac, on a aussi des applis de qualité et ces applis ne s'installent pas depuis un store. Donc, l'un n'implique pas l'autre. Ça a tendance à faire en sorte que les développeurs fassent un peu moins de la merde. On l'a vu sur Flare, hein, quand on avait publié sur l'App Store, il y avait un retour de développeurs d'Apple qui nous ont dit « Il faut améliorer ça, il faut améliorer ça. » Chouette, je reconnais que c'est très cool. Mais il y a d'excellentes applications sur Mac, sur Windows, sur Linux aussi, sur Android, qui n'ont pas eu besoin d'un store particulier pour être excellentes. Voilà, voilà un peu mon point de vue. Si tu les forces à faire 5% de marge, ils vont mettre l'appli au fin fond de l'App Store. J'ai pas compris ton message, Oxymore, parce que pour moi, c'est 5% pour tout le monde, hein, on est bien d'accord. Sur Android, tu as le choix et les gens prennent quand même le store. Oui, mais parce qu'il est préinstallé. Xnili. Sur mon Mac, certes, d'ancienne génération, toutes les apps que j'utilise viennent du web. Et elles sont souvent d'excellente qualité. Hein. J'ai été beaucoup sur Mac. Je pense que 95% des applis que j'avais ne venaient pas de l'App Store. Et elles étaient d'excellentes factures. C'est comparable à d'autres services grossistes, grande distribution et on dit rien. Oui, et j'avais utilisé, et je sais que plein de gens m'étaient tombés dessus, mais c'est pas grave, le mot de mafia. Je sais que beaucoup de gens me l'ont un peu reproché. Mais il n'est pas si exagéré, je trouve, ce mot. Je continue de penser qu'il n'est pas si exagéré. À partir du moment où tu es obligé de payer une taxe de 30% pour être présent sur un store où énormément d'utilisateurs sont là, et encore une fois, quand tu démarres une entreprise, si tu fais une appli grand public, donc B2C, tu veux toucher le plus de monde, tu es obligé de passer par l'App Store. Et à partir du moment où tu es un peu obligé de passer par un store pour diffuser ton appli et que ce store te prend une taxe obligatoire de 15 ou 30%, on est quand même sur des pratiques qui sont pas ouf. Hein. Comment tu fais payer les frais de fonctionnement de l'Apple Store, les tuyaux du net, par exemple, pour pouvoir télécharger les applis. Mais je suis d'accord avec toi, hein, Cyber Simple. Le truc, c'est que tu n'es pas obligé de mettre une commission aussi grande. En fait, c'est juste qu'on a l'impression qu'ils sont obligés d'avoir 30% pour que ça fonctionne. Non. Je ne pense pas qu'Apple serait moins multimilliardaire en mettant une commission de 5%. Et j'aurais même envie de te dire que ça pourrait créer un cercle vertueux, parce que si la commission est moins élevée, beaucoup d'applis pourrait encore plus inciter les gens à ce que les paiements in-app soient depuis l'App Store. En fait, c'est juste, vraiment, je vous demande pour les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, juste de prendre un peu de recul sur le fait, est-ce que c'est pas des fois l'habitude d'un système qui fait qu'on est d'accord avec ? Moi, je trouve qu'un petit peu, mais voilà. De nouveau, si on joue sur les mots, on est obligé de rien du tout. Dans les faits, on est d'accord que c'est préférable, mais pas obligatoire. Franchement, Bicris, enfin, quand tu démarres une entreprise, si tu veux être présent et toucher un maximum de monde, tu es obligé d'être sur Android et iOS. Tu n'as pas le choix aujourd'hui. C'est pas que je suis pas d'accord avec toi, mais 5%, c'est vraiment light. Peut-être l'équilibre est autre part, hein. Peut-être l'équilibre est plutôt 8% ou 10%, ou j'en sais rien. Mais moi, je suis d'accord qu'il faudrait une loi qui légifère là-dessus et qui dise que tu ne puisses pas dépasser un certain pourcentage. Peut-être 10%, mais que tu ne puisses pas aller plus loin. Moi, je ne travaille pas pour 5% de marge perso. Tu peux, en fait, faut aussi le voir différemment, Oxymor, c'est que tu peux réduire ta marge si tu as énormément d'applications et d'utilisateurs. Et c'est souvent ce qui se passe, hein, c'est que souvent, quand vous achetez en gros, la marge est réduite parce que vous achetez énormément. Donc, c'est pas un fonctionnement qui s'est jamais vu, quoi. Alors, YoWill, tu dis, est-ce que des gens chez Apple ont déjà pensé à tout ça? Bah oui, mais Apple, tant qu'ils peuvent mettre 30%, ils vont pas se priver. Tout simplement. Et moi, je serais Apple, avec des actionnaires derrière qui me mettent la pression, clairement, je tenterais de continuer à mettre du 30%. Sur du volume, 5%, c'est bien. C'est énorme, 5% sur un volume. C'est monstrueux. Et il a été prouvé que trop d'impôts tuent l'impôt. Avec un taux plus grand, l'État a déjà gagné moins qu'avec un taux plus bas. Je ne suis pas expert cardinal de Richelieu sur tout ce qui est taxation et tout ça pour en parler plus en détail. Moi, j'ai pas de problème à payer plus cher pour une application sur un store, mais moi aussi, hein, sur iOS, j'ai payé des applis plus de 10 balles. Le problème n'est pas le enfin, moi, je suis pas du tout contre payer une appli chère. Par contre, ça me fait chier que, effectivement, que sur cette somme-là, il y ait 30% qui partent à Apple, alors que je préférerais qu'une plus grande partie aille aux développeurs. Par contre, je n'achète plus d'application aujourd'hui sur l'App Store pour une autre raison, il est impossible de faire tourner de vieilles applis programmées sur iOS 8. Ouais, c'est un autre problème. Voilà, je vous ai fait un peu le tour de la news. Vous pouvez ne pas être d'accord du tout avec moi, on est bien là pour ça. Je sais que le rapport est inégal parce que moi je suis en live, donc j'ai plus de voix que vous. Donc ça, sur ce point-là, j'en suis désolé. Hein. C'est vrai que ça fait des débats qui sont inégaux. Mais j'essaie de vous lire le plus possible quand même dans la chatroom. Moi, les 30%, ça ne me pose pas de problème. S'il y avait une alternative, le problème est là. Mais tu vois, Flomassol, je suis d'accord, un peu d'accord avec toi. Mais je suis assez convaincu que s'il y avait une alternative, Apple ne mettrait pas 30%. Parce que justement, les développeurs iraient sur le truc où il y a un pourcentage moins élevé. Ouais, désolé pour les bruits, c'est qu'il y a des travaux à côté. Désolé pour le bruit, je ne vais pas pouvoir y faire grand-chose. C'est comme une boutique qui paye un loyer sur un grand boulevard passant, ça représente bien souvent autour des 30% du chiffre d'affaires. Ce n'est pas la même problématique, je trouve, parce que ça y ressemble, mais comment dire? Tu as toujours des. Ah, on n'est pas si loin quand même. Mais pour moi, on n'est pas dans le même domaine parce que tu es sur de l'immobilier, parce que tu peux toujours. Ouais, si ça ressemble un petit peu. Mais là, pour le coup, c'est plus un problème de l'immobilier. Enfin, tu vois, c'est pas les mêmes choses, quoi. Bref. Google a des alternatives et ils sont aussi à 30%. Mais parce que Google s'est aligné aussi. Ou l'un et l'autre s'alignent sur leur même prix. Mais 30%, enfin, franchement, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup, beaucoup. Bref. Allez, on va avancer, on va parler d'une petite dernière news. iOS 14.3, qui est encore en bêta, qui est une bêta que j'ai. Enfin, la version finale de 14.3, je l'attends énormément parce que c'est la version d'iOS qui va apporter aussi le Pro RAW, donc le nouveau mode RAW pour l'appareil photo d'Apple. Donc, c'est un truc que j'attends énormément. Et, excusez-moi. Donc iOS 14.3 va permettre un truc qui est très cool. Et c'est marrant parce que là, je vais parler en mode. Je vais analyser un petit peu justement le changement de perspective d'Apple, vers où Apple évolue et notamment vers beaucoup de services. Et je pense que ce qu'ils sont en train de faire, c'est aussi pour attirer des utilisateurs Android. Donc cette bêta d'iOS 14.3 permet maintenant de lancer les shortcuts, donc vous savez, les raccourcis, directement. Sans qu'il y ait l'application de raccourci qui s'ouvre en premier. En gros, pour vous expliquer un petit peu le délire, c'est que beaucoup de personnes sur iOS 14. Tout court, 14, se sont amusées à faire de la customisation de leur. Je vais vous montrer l'écran exact. Ah putain, le no signal. Bon, je vais couper la caméra. Voilà. Et je vais redécaler le mug Nowtech. Ouais. Donc en fait, beaucoup d'utilisateurs se sont amusés à faire des écrans d'accueil d'iOS customisé avec des icônes personnalisées. Et ça utilise les raccourcis d'iOS. Le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, ces raccourcis, quand vous les cliquez dessus et que vous les ouvriez, ça ouvrait d'abord l'application raccourci et ensuite ça ouvrait l'application. Ça permet donc, ouais, je le répète, hein, de faire des icônes customisées. Et bien justement, on va repasser sur la caméra. Et justement, Apple va permettre de ne plus passer par l'application Shortcut pour ouvrir ces applications. Ce qui permet d'avoir une customisation des icônes encore plus poussée et encore plus transparente. Et c'est là où je disais que c'est marrant parce que c'est pas du tout un truc qu'Apple aurait fait il y a 2-3 ans. Et d'autant encore moins à l'époque de Steve Jobs, je pense. Mais il s'ouvre sur la customisation, hein, avec les widgets, avec ces icônes-là. Et je pense que ce n'est pas une stratégie anodine, parce qu'Apple pourrait très bien le bloquer, ça. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait que ça va attirer des utilisateurs Android. Et que c'est une vision service, beaucoup plus service, parce que le système devient plus personnalisable, plus customisable, vraiment à l'instar d'Android. Et donc, les gens vont être moins bloqués par ça. Il y a un petit pourcentage de consommateurs, d'acheteurs, qui aiment énormément cette possibilité de customisation et qui se sentent, même psychologiquement, ils vont se sentir à l'étroit sur iOS que toutes les icônes soient toujours les mêmes et ne pas pouvoir s'approprier le téléphone. Il y a une partie des utilisateurs qui sont comme ça. Je l'étais à une époque, je le suis beaucoup moins parce qu'en fait, personnaliser l'Android... En fait, comme on change régulièrement de téléphone sur YouTube, quand on fait du YouTube Tech, ça me tord les roubignoles de le faire à chaque fois, mais clairement, c'est chouette, quoi, de le faire. Il y a des gens qui disent, c'est cool, c'est pour ça que j'utilise pas raccourci. Apple évolue, ils autorisent la personnalisation d'icônes, pardon. Au final, Tim Cook, il est plus ouvert et pour moi, mieux que Jobs sur bien des points. Je préfère largement Tim Cook à Jobs, hein. Je reconnais beaucoup de qualités à Steve Jobs, mais c'est pas du tout une personne que j'ai dans mon cœur. Clairement, je trouve que c'était une personne odieuse. Et c'est pas du tout dans mon... Comment dire ? On est un peu aux antipodes, quoi. Enfin... le côté très arbitraire de Jobs. Alors, ça a des bons côtés. C'est une discussion qu'on a eue au boulot avec un collègue sur le fait de justement comment on dirige des équipes, comment on apporte du changement dans des équipes, comment on peut apporter des gros changements, comment avoir une vision sur le produit et la diffuser, mais sans que ça soit arbitraire et sans que ça soit forcé. C'est-à-dire arriver à discuter, arriver à un concours de plusieurs personnes en prenant en compte la résistance au changement. Amener ça sans froisser les gens, sans qu'on ait à besoin de forcer les gens. Tout ce délire-là, je le trouve super passionnant. Je trouve que c'est super, super intéressant dans le contexte d'une grosse entreprise. Et c'est pour ça, hein, que je chéris vraiment mon expérience là depuis un peu plus d'un an en entreprise, parce que toutes ces problématiques-là, je les vois. Et c'est génial. Et je trouve ça vraiment, vraiment génial. Ça me tord les roubignoles. Expression adoptée. Merci à toi, R. RRRRGH. Enfin, exactement. Bref, Steve Jobs était psychopathe et a abandonné sa fille. Ouais, c'est un peu ce genre de choses qui me fait que j'ai du mal avec la personne. Fini la notif qui te demande d'exécuter une automatisation. C'était assez aberrant. Une automatisation, c'est automatique. Oui, c'est vrai, Brio aussi, qu'il y a ça qui a changé. T'as besoin de Jobs au début, mais une fois installé, Cook est mieux. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Allez, mesdames et messieurs, nous allons passer à la tartine. Aujourd'hui, il va y avoir une tartine et une cerise sur le croissant. Il n'y aura pas de canfax. On va prendre 2-3 minutes pour blablater un peu, mais ça va être une tartine et une cerise sur le croissant. Je réexplique un petit peu les deux rubriques. La tartine, c'est un truc un petit peu approfondi, enfin un moment un peu approfondi sur un sujet. Ça peut être une collection de diverses news, comme le fait par exemple Marion sur les news streaming. Ça peut être d'approfondir un peu un sujet, ça peut être de lancer un débat. Et la cerise sur le croissant, c'est plutôt un petit partage, un petit site web, une petite appli, une petite cerise sur le croissant, à l'origine une cerise sur le gâteau, mais voilà, un petit truc qui fait plaisir en fin d'émission, alors que la tartine, c'est, voilà, c'est vraiment un truc plus consistant, on prend du temps pour la manger. Je réexplique les rubriques parce qu'il y a des gens qui... bah, pose ta question quand même, Baya, hein, je pense qu'on prendra le temps de l'expliquer, enfin je prendrai le temps d'y répondre. Mais voilà, je réexplique un peu les rubriques parce que pour certaines personnes, c'était pas très clair de pourquoi on mettait une tartine et pourquoi on mettait une cerise. Donc voilà, je voulais vraiment l'expliquer. Avant de passer à la tartine, très important, évidemment, on parle du sponsor de l'émission. Vous savez que toutes les semaines, pardon, vous avez un mois de Shadow à gagner. Pour participer, vous suivez le Twitter @shadow-france. Vous postez un tweet en disant « Je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le MagnaoTech pour jouer à un jeu, pour utiliser un logiciel. » Et le vendredi, Jérôme, donc demain, annoncera le gagnant de la semaine. Et voilà, c'est parti pour la tartine. Alors, Nali Eric, tu dis il n'y a pas les descriptions des rubriques dans la description de la chaîne. Non, il faudrait que je les rajoute. C'est une bonne remarque. Oui. Faut que je la rajoute. Je vais me le noter. Parce que c'est le genre de truc, typiquement, je vais oublier. Je vais me le noter pour samedi. Hop là, bam bam bam. Tic-tac, bim bam boum. Hop, on se rajoute un petit événement. Rajouter la description. Regarde, c'est incroyable. On bosse en live, c'est merveilleux. Rajouter la description des rubriques sur Twitch. Voilà. Parce que c'est le genre de truc, c'est vraiment les mini-tâches qu'on met de côté, qu'on oublie. Je vais le faire à 11h. C'est typiquement une heure où je suis sûr d'être réveillé. Voilà, samedi 21, ça sera fait. Par contre, il me met sur le mauvais calendrier. Je veux que tu me mettes sur le calendrier de Postéo. Excellent service, incroyable. 1 € par mois, c'est merveilleux. Je ne comprends pas cet acharnement avec Shadow car il ne livre plus rien jusqu'en 2021. Bah après, ils sont encore sponsors avec nous parce que on peut encore souscrire à des abonnements. C'est juste que le délai de livraison est extrêmement lent, effectivement. Mais voilà, tu peux encore souscrire et voilà. Et puis ça permet à des gens de quand même tester le produit. J'ai pas vu le mug Nowtech. Comment ça, les petites merguez? J'ai pas compris ton message. J'ai pas compris. Bref, c'est pas grave. On va parler aujourd'hui d'un post sur Reddit qui m'a un peu fait tiquer. Et je voulais justement reparler un peu de fingerprinting, donc d'empreintage, comment on pourrait dire, d'empreintes numériques, de suivi numérique hein, par rapport aux GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Mais là, on va surtout se focaliser plutôt sur Google et Facebook parce que c'est ceux qui, parmi tous, ont tendance à beaucoup proposer de publicité. Je mets un peu Amazon de côté parce que là, voilà, on va vraiment pas parler spécialement d'Amazon. Et c'était un post d'un gars qui s'appelle Rate My Joke 1-5 et qui a posté un truc qui dit: est-ce qu'il y a des leaks sur Signal? Alors Signal, je vous le rappelle, c'est une application de discussion que je vous invite absolument à utiliser à partir du moment où vous avez des personnes proches, notamment comment dire, un chéri, une chérie, des amis proches, surtout des personnes avec qui vous échangez bah, potentiellement des choses privées. Je pense notamment par exemple à des choses médicales. Hein, à partir du moment où on a un copain ou une copine depuis un moment, bah, je ne vais pas vous cacher que oui, il y a des sujets médicaux auxquels on parle, que ça peut être la contraception, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être tout un tas de sujets. Et justement, à partir du moment où vous avez ce genre de discussion, ce genre de choses qui arrivent dans la vie de, en général, monsieur et madame tout le monde, je vous invite vraiment à ne pas avoir ces débats, enfin ces sujets-là, dans un chat, alors que ça soit par SMS sur Android ou que ça soit sur Messenger de Facebook. Enfin, ce genre de discussion, vraiment, essayez de les rendre privées le plus possible. Et pour ça, vous avez des applis que je trouve assez géniales, comme Signal, éventuellement aussi Telegram, qui, bon, il y a des petits reproches à faire à Telegram, mais c'est toujours mieux que Messenger de Facebook, c'est toujours mieux que le chat Instagram, c'est toujours mieux que toutes ces choses-là. Voilà. Et donc, cette personne se posait la question, il dit: est-ce qu'il y a des fuites sur Signal? Parce que, il dit, je suis un gros utilisateur de l'application, je suis même un évangéliste, hein, j'essaie de convaincre mes amis, blablabla. Il dit ça, pourtant, j'ai reçu des publicités récemment qui étaient très proches de ce que j'ai écrit ou de ce que j'ai envoyé par des messages audio ou des appels vidéo. Il dit, il n'y a aucun moyen que mes amis ou moi aient cherché ces topics-là, ces sujets-là. Ma réaction initiale était mais non, c'est Signal, il y a une coïncidence, blablabla. Mais il dit, les mois passent et les coïncidences apparaissent encore, enfin oui, surviennent encore. Et il dit, l'exemple le plus récent était aujourd'hui. J'ai dit à mon ami que je devais aller à un marché spécifique pour acheter quelque chose. Et quand je suis revenu, j'ai dit à mon pote que j'avais acheté un paquet de saumon, enfin que j'ai acheté du saumon. Après quelques heures, j'ai reçu une publicité vidéo qui avait une publicité avec du saumon. Je n'ai jamais vu ces trucs-là avant. Est-ce que ça arrive à d'autres gens? Et justement, je voulais éclaircir un petit peu. C'est très dur de convaincre les gens d'aller sur Signal. Le privacy n'est pas encore assez sexy. Pourtant, pour le coup, l'appli Signal est vraiment chouette. Hein. Je n'ai rien à lui reprocher. C'est pas comme certaines applis du monde du logiciel libre où j'ai vraiment plein de trucs à leur reprocher, notamment la suite LibreOffice où il y a vraiment des trucs où ça merdoie un peu des fois. Signal, je n'ai rien à lui reprocher. Vraiment. Si, un truc à lui reprocher, mais c'est un peu par design, c'est que quand vous changez d'appareil, en fait, vos messages ne sont pas stockés sur un serveur. Dans le sens où, quand vous changez de téléphone, quand vous changez de... Par exemple, vous passez d'un Android à du Apple, vous ne pourrez pas retrouver votre historique de conversation Signal. Mais c'est un peu par design. C'est parce que, justement, vos messages ne sont pas stockés sur des serveurs. Qu'est-ce que vous dites ? Je suis sûr qu'il utilise le Google Keyboard, ça doit venir du clavier. Peut-être ça vient du clavier. Mais tout ça pour dire que je vais vous expliquer un peu deux, trois trucs. Parce que pour moi, ça ne vient pas que du clavier. En fait, il y a beaucoup de personnes... Ce son de cloche, je l'ai entendu à plein d'endroits. Et j'ai même vu une vidéo qui m'avait fait tiquer à l'époque. C'était Le Grand JD qui avait fait une vidéo où il essayait de savoir si Google, Facebook et tout ça écoutaient sur le smartphone. Donc, il parlait au smartphone, il disait des mots-clés et il essayait de voir si les publicités sur Google et Facebook s'adaptaient aux mots-clés qu'il disait sur le téléphone. Évidemment, ça ne fonctionnait pas. Pour la simple et bonne raison, en fait, il y a plein de choses à expliquer. Déjà, il faut bien comprendre que cette personne a dit « oui, je parle sur Signal et tout », mais je suis assez convaincu que cette personne, tout le monde, même les plus grands évangélistes de la vie privée, ont à un moment ou à un autre une recherche Google parce que soit c'est une erreur de manipulation, soit c'est parce que le résultat n'était pas bon, donc ils ont ouvert une recherche Google, blablabla. Donc déjà, il faut bien comprendre que la moindre recherche Google va créer une empreinte. Et je vais vous donner un truc qui va peut-être vous faire froid dans le dos, mais je pense que vous le savez déjà. Vous n'êtes pas des gens bêtes. Si vous avez, par exemple, cherché sur YouTube ou sur Google le mot-clé Nowtech, ou le mot-clé Nowtech, vous faites partie, très probablement, de 0,1% des Français. Déjà, vous êtes ciblé énormément parce que, en fait, c'est très rare de taper Nowtech sur Google ou sur YouTube. Et Google et YouTube, c'est la même chose. Donc, rien que ça, déjà, va créer une empreinte et va vous différencier de la masse d'un coup. Guillaume FR, tu dis... Alors, attention, Guillaume FR, hein, au spam de 3 messages d'affilée. Vraiment, enfin, désolé, on t'embête avec ça, mais c'est pour éviter que ça pollue la chatroom et que ça monopolise. Donc, vraiment, essaye au moins d'attendre qu'une autre personne ait mis un message, s'il te plaît. Voilà. Donc, déjà, vous cherchez Nowtech. Vous cherchez n'importe quel mot-clé, hein, même, je ne sais pas, vous tapez « recette au saumon », déjà, vous faites partie d'un petit pourcentage. Je vais développer un peu après. Donc déjà, il y a ça. Deuxièmement, il y a la localisation. Et même en désactivant la localisation précise, hein, sur les smartphones, vous avez votre adresse IP. Pour peu que vous ne soyez pas derrière un VPN, l'adresse IP donne une approximation de la localisation. Ça peut être soit le pays, rien que la France déjà, ou alors l'IP peut aussi donner la région. Hein. Donc c'est déjà ça... permet d'affiner l'empreinte. L'autre point, c'est les réseaux Wi-Fi où vous connectez. Typiquement, ça, je sais qu'il y a une dizaine d'années, un peu moins, Facebook me suggérait en ami des gens que j'avais rencontrés IRL. Parce que très certainement qu'on s'était connecté sur le même réseau, Wi-Fi et que Facebook collectait énormément de choses à l'époque, un peu moins maintenant, et il arrivait à détecter ça. Et pour peu que vous étiez en lien avec une personne qui a fait une recherche de saumon récemment, Facebook peut se dire, tiens, cette personne, elle a parlé avec une personne qui aime le saumon, peut-être je peux lui proposer une petite pub, on ne sait jamais. Donc déjà, il y a ça. Il peut y avoir les applications que vous téléchargez, surtout sur le Play Store, les sites que vous visitez, parce que vous savez que le cookie de Google, il est sur énormément de sites aujourd'hui. Si on revient un peu à Facebook, les photos que vous likez sur Insta, le simple fait de liker certaines photos et pas d'autres, ça affine encore plus votre empreinte numérique. Pour peu que vous likiez des photos de, je sais pas, de street photographie, je veux dire, c'est pas tout le monde qui like des photos de street photographie, c'est plutôt en général des photographes. Peut-être que c'est, je dis un truc au pif là, hein, mais c'est peut-être plutôt des hommes, parce que c'est peut-être plutôt un domaine qui est favorisé par les hommes. Peut-être que les femmes font moins de street photographie. Je mets des grosses pincettes, hein, c'est pas une affirmation, je ne sais pas du tout. La street photographie, c'est aussi un domaine où peut-être que c'est des hommes photographes qui ont tendance à beaucoup dépenser dans du matériel photo, etc., etc. Et en plus, si vous avez cherché Nowtech, donc vous êtes dans cette catégorie de gens qui font de la street photographie, vous êtes potentiellement un homme qui regarde du Nowtech, donc qui potentiellement est intéressé par du Apple, parce que sur Nowtech, on en parle beaucoup. Vous voyez, et là, je le fais à l'oral, mais une machine, elle va le faire automatiquement en... qui porte une casquette, tout à fait. Qui vont le faire en un claquement de doigts. Ça va le faire en une demi-seconde, tout ce traitement-là. Également, le moindre sur Android, et c'est pour ça que je ne veux pas d'Android comme téléphone personnel, le moindre appel ou SMS à quelqu'un, Google sait à qui vous, avec qui vous communiquez. Donc, va faire une association de vous avec un contact en particulier. Donc, si les votre numéro de téléphone et si les numéros de téléphone des deux personnes sont associés à un compte Google, Google va pouvoir associer l'empreinte numérique de vous deux. Donc, pour peu que vous parliez régulièrement, je ne sais pas, à votre copine par SMS et que vous likiez des photos de chatons tous les deux, bah, la publicité va s'affiner et va vous proposer des photos de chatons, typiquement. Et vous voyez, ça, c'est... En fait, quand on commence à penser un peu à tout ça, on se rend compte que c'est très simple. En fait, c'est vachement simple de le faire, le recoupement entre... Et donc... entre plusieurs personnes. Et donc, pour revenir au saumon, pour revenir à ce gars sur Reddit-là, qu'est-ce qui peut mener au saumon ? Pourquoi cette personne, qui pourtant dialogue sur Signal avec une messagerie chiffrée, qu'est-ce qui pourrait mener au saumon ? J'ai essayé de poser un peu la question. Premièrement, déjà, truc important, les fêtes de fin d'année approchent. Et rien que ça, déjà, ça va dire aux algorithmes, bah, les gens, fêtes de fin d'année qui approchent, potentiellement, ils vont avoir envie de manger de la bonne bouffe. Et le saumon fait globalement partie de plats qu'on mange à Noël. Donc déjà, premier truc. Donc ça affine un peu. Si on devait présenter de la publicité de bouffe, déjà on va plutôt présenter ce style de publicité, en dehors de l'empreinte numérique. Premier point. Deuxième point, vous avez peut-être dialogué avec un membre de la famille qui en achète souvent. Mais ça, vous ne le savez pas. Comme je l'ai dit, hein, Google le sait parce que recoupement des numéros de téléphone. Ou alors une personne, sur Facebook par exemple, vous suivez une personne proche qui a liké des photos... où elle préparait des trucs au saumon, en mettant des hashtags genre salmon, hashtag pêche équitable, etc. Donc déjà, deuxième point. Troisième point, certaines recherches sur la bouffe. Par exemple, si vous avez tapé sur Google, recette de magret de canard. Vous allez vous dire, mais bordel Guillaume, le magret de canard, ça n'a rien à voir avec le saumon. Eh bien si, c'est ça qui est génial, ou pas. Non, en vrai, ça fait un peu peur. Mais en gros, pourquoi ? Parce que si vous tapez recette de magret de canard, réfléchissez deux secondes, vous tombez dans une catégorie de personnes, immédiatement. Vous tapez dans une catégorie de personnes, je cite, enfin je me cite moi-même de ce que j'ai noté dans mon truc, qui ont les moyens de s'acheter de bons produits et de les cuisiner. Alors est-ce que c'est 5% des Français, 10% des Français, 15% des Français ? J'en sais rien. Mais déjà, ça va cibler énormément. Parce que vous n'allez pas être dans la catégorie socio-professionnelle de personnes qui ont un SMIC, typiquement. Parce que les personnes qui ont un SMIC, potentiellement... je suis moins convaincu, ou en tout cas, les algorithmes vont être moins convaincus que ces personnes-là vont acheter du foie gras, du saumon, ou surtout vont taper recette de magret de canard, parce qu'un magret de canard, ça coûte quand même cher. C'est pas un mets, que, j'ai envie de dire, accessible. Donc déjà, ça va vous cibler. Hein. Et surtout, période de fête de fin d'année, vous avez tapé recette de magret de canard, je suis un algorithme, je me dis, bah, vas-y, go, je lui propose des recettes ou je lui propose des produits qui sont très associé. Et qu'est-ce qui est associé à du magret de canard ? C'est de la gastronomie un peu plus fine. Ça peut être des choses comme du foie gras. Ça peut être des poissons un peu plus fins, genre des rougets, des trucs comme ça. Et ça peut être aussi bah, du saumon. Du saumon. Voilà. Et également, pour peu que vous ayez, je ne sais pas, envoyé un SMS où vous avez parlé de saumon, ou même une notification avec du signal, où il y ait le mot-clé saumon dedans, et bien Android, je vous rappelle, Google a accès à vos notifications, peut les lire. Est-ce qu'ils le font ? Je ne sais pas, mais ils peuvent le lire. C'est parce que t'es toulousain qu'on te propose tout ça. Ouais, le magret de canard, ouais, un petit peu. Voilà un petit peu le tour. Donc, je conclue. Vous êtes unique sans l'être. Ça, il faut bien, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. Jérôme pourrait totalement confirmer, lui qui a fait du marketing. On a l'impression d'être unique. On a l'impression qu'on est des individus qui ont chacun... Alors, c'est vrai, on a chacun nos particularités. Mais la vérité est que on est, surtout les algorithmes l'ont bien montré, c'est qu'on, en fait, on se ressemble énormément. Les êtres humains se ressemblent énormément. Ça, autre point que je voulais, sur lequel je voulais conclure, les GAFAM ne vous écoutent pas activement. Les GAFAM ne vont pas activement écouter votre micro parce que c'est pas rentable, tout simplement, pour eux. Ils le font déjà parfaitement bien avec toutes les métadonnées. C'est vraiment le mot-clé qui est important à retenir, c'est les métadonnées, c'est-à-dire ces petits mots-clés, ces petits trucs. C'est pas le contenu de vos messages, c'est un petit peu qu'est-ce que vous avez liké, avec qui vous parlez, couplé à la période dans laquelle on est, les fêtes de fin d'année, les trucs comme ça. Bam, publicité. Bref, voilà un peu pour la conclusion. Et je vais lire un peu vos commentaires. Les autres, c'est vrai, ils ne sont pas uniques, moi si. C'est marrant le nombre de personnes qui disent, ouais, moi je suis trop différent. Hein? Parce que c'est marrant cette petite contradiction. Moi, à chaque fois, elle me fait sourire. Putain, mais je suis tellement différent. Moi, je suis pas comme toutes ces personnes. Voilà, et plein de gens sont comme ça. Voilà. Vous êtes souvent similaires. Et je le suis aussi. Je lis un petit peu vos messages. Si Apple pouvait sortir un moteur de recherche, je serais le plus heureux du monde. Je suis amoureux des produits iOS grâce à cette protection qu'Apple offre, même si c'est un argument marketing plus qu'autre chose. Oui, c'est toujours, on va dire, c'est le moins pire du groupe Apple, clairement. Mais moi, je suis sur un iPhone, hein, donc actuellement, je suis sur un iPhone, à la fois professionnellement pour Nowtech, mais aussi parce que je pense que ça fait partie des moins pires, même si j'ai été pendant plus de 6 mois sur un Pixel 3 avec un Android dégooglisé. Et c'était une super expérience et très utilisable au quotidien, hein, totalement. Le seul défaut, c'est que je n'avais pas les notifs de Discord. Et dans ce que je fais sur Nowtech aujourd'hui, ne pas avoir les notifs de Discord me pénalise beaucoup, vraiment beaucoup. Ce sujet est très intéressant et me fait penser à deux cas qui me sont arrivés. Comment tu expliques que je parle d'un sujet, par exemple, perso historique, et que je veux le rechercher sur Google, et paf, je tape la première lettre, il est le premier, alors que c'est loin d'être la recherche la plus importante. Parce que tout ce que j'expliquais, Vaya, parce qu'en fait, tu fais partie d'une catégorie de personnes très particulière. Et pour peu. En fait, il ne faut pas oublier que tu as probablement des mois et des mois et des mois de données collectées sur tout ce que tu as cherché. Et c'est très probable que tu aies peut-être déjà cherché un truc un peu comme ça. Mais il y a 1 an ou 2. Sauf que Google l'a stocké, ça. Et ils peuvent te ressortir des choses d'il y a plusieurs mois ou plusieurs années. Tu as DuckDuckGo. Moi, j'aime beaucoup DuckDuckGo. Hein, je vous le conseille aujourd'hui. Je le trouve très chouette. J'ai assisté à des réunions chez Google, leur profilage est inimaginable, ils gardent les données de vous depuis toujours, ils savent tout de vous, ils vendent au gros commerce ces profilages pour la pub. Bien sûr, c'est incroyable, et la puissance qu'ils ont est monstrueuse. Et voilà, bon bref, on va passer à la petite tartine. Je voulais, pardon, la cerise, mais je voulais qu'on parle de ça. Quoique il est déjà 9h06, est-ce que je ne vous garde pas la cerise pour la semaine prochaine? Je vous garde la cerise pour la semaine prochaine, c'est une cerise photographie. On va passer au CornFacts parce que le sujet est intéressant et comme ça on en parle ensemble, c'est parti. Tu dis personnellement à Moclofer, je trouve que Google ne fait pas assez bien son travail encore, il n'y a rien de pertinent dans les pubs qui m'arrivent, vraiment pas. Moi, c'est sur Instagram où je trouve que les pubs sont extrêmement pertinentes. Et pourtant, je suis le premier à faire attention, enfin, j'utilise très peu Facebook. Mais comme quoi, hein, le profilage, il est vraiment très puissant parce que à un moment, je cherchais des coques pour l'iPhone 12 Pro. Je sais plus où j'ai mis ça, je crois que c'était sur YouTube. Et très rapidement, je me suis mis à avoir plein de publicités sur Instagram pour des coques d'iPhone 12 Pro. Si ça vous intéresse, allez voir vos historiques de tracking Google et aussi les apps connectées sur votre compte Facebook, c'est édifiant et malaisant. Je pense qu'on sous-estime les algorithmes du genre, j'utilise tellement de protection et les réinitialise régulièrement que je reçois quasiment jamais des pubs qui m'intéressent. Alors bon, des fois c'est chiant tellement ça n'a pas de rapport avec ce que j'aime. Tu veux dire, on surestime les algorithmes, Bicris? Pas sous-estime, je pense. Moi, je pense plutôt qu'on les sous-estime. La preuve, c'est que je vois toujours plein de gens sur Internet qui disent « Putain, mais j'ai parlé de ça à l'oral et le lendemain, j'ai eu la publicité du truc. » Parce que c'est une méconnaissance de comment fonctionnent les algorithmes. Instagram sait que je suis un cycliste urbain qui s'habille en équitable, voire français. Il est très, très précis. Ouais. Guillaume, tu recommandes toujours le zoom machin comme micro et enregistreur pour débuter comme tu l'avais fait dans une ancienne vidéo. Ouais, je trouve que le zoom machin est toujours un bon micro, mais il chope le d'occasion. Il commence peut-être à avoir pris un petit coup de vieux, le zoom machin. Sur Instagram, je regarde que des chats, des hiboux et des lamas. L'algorithme a dû me mettre en pète perve. On les sous-estime. Alors, j'ai pas compris ton message, Bicris. Attendre des PC ARM ou rester sur Intel AMD pour l'achat d'un nouveau PC? Bah, ça dépend. Si t'es sur du Mac, la question se pose. Moi, je te dirais d'attendre peut-être 1 an. Si t'es sur un PC, reste sur du. Enfin, prends plutôt de l'AMD. Si t'es sur ordinateur, enfin, si t'es sur vraiment une bonne grosse tour ou un ordi portable, prends de l'AMD. Je pense que c'est mieux. Il faut fausser l'algo exactement, recherche de la main. Ah oui, mais il y a des outils hein, qui permettent de fausser l'algorithme. Il y a des gens qui ont développé des trucs pour brouiller les pistes. Et je trouve que l'idée est plutôt cool. Je te remets l'autre histoire parce qu'elle est bizarre aussi. Le deuxième cas qui m'est arrivé, je devais retrouver une amie sur Paris. Elle n'avait plus de batterie. Elle m'appelle avec le portable d'un ami que je connais absolument pas. Et là, il me dit, le tel me dit peut-être Aurélia. Très certainement que là, c'est plus parce que Le numéro de téléphone est dans une base de Google et permet de suggérer le prénom ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas l'explication à ça, mais ça, tu vois, typiquement, ça ne me choque pas plus que ça. Je pense qu'il y a un moment où le lien entre ton prénom et... Ton prénom est très facile à choper, ça ne m'étonne pas du tout. Mais... Je sais pas, là j'ai pas l'explication, mais je ne pense pas que ça soit une écoute active en mode espionnage, quoi, de toute façon. Alors, vaste question. Nouveau MacBook Air M1 ou iPad Pro 13 pouces? Oh, tu poses cette question à 9h09. Ouf! Ça dépend de tes usages. Canard à trois pattes. J'adore ton pseudo, il est trop cool. Mais ça dépend trop de tes usages, en fait. En fait, il faut que tu lises. Moi, pour moi, le plus simple, c'est que tu lises sur un papier ce que tu fais avec ton ordinateur. Si, typiquement, par exemple, tu fais du montage vidéo, ne prends pas l'iPad Pro. Même s'il y a LumaFusion et des trucs qui sont quand même à un niveau génial, le simple fait de pouvoir brancher un deuxième écran sur un Mac et de pouvoir l'avoir en pleine résolution, ça écrase l'iPad Pro. L'iPad Pro peut gérer un deuxième écran, tu as certaines applis qui le prennent en compte, mais... Par contre, tu vois, tu fais de la retouche photo, je te conseillerais plutôt un iPad Pro. Parce que pouvoir retoucher sa photo en mobilité avec l'autonomie d'un iPad, le stylet et ce genre de choses, ah, je trouve un vrai avantage. Après, voilà, va voir sur Naotech, Jérôme en a déjà parlé énormément, mais ça dépend de... En fait, je ne peux pas répondre à ça, ça dépend vraiment de vos besoins. En voyant les benchmarks du Apple M1, j'ai eu un orgasme. Ouais, les benchmarks sont très impressionnants pour du M1, mais il faut faire attention, la puissance brute n'est rien. Il faut la maîtriser, la puissance. J'attends de vrais bench réels, tant pour exporter une grosse vidéo. Il a quand même montré un petit peu MKBHD, même si je suis pas trop fan de ce qu'il fait récemment, mais il a quand même montré le temps de rendu d'un fichier vidéo sur du Apple M1, et c'est impressionnant. Alors, ta question, Vaya, ouais, qu'on la loupe pas. C'était pour un collègue qui veut changer de téléphone, mais il est chiant. Il a 400 euros grand max de budget, plein d'attentes. Écran sans bordure, bon appareil photo, charge rapide, et j'ai pensé au Google Pixel 4a. Oui, il trouve les bordures trop grandes, mais non, mais il abuse, ton collègue, parce que les bordures d'un Pixel 4a, elles sont quand même très raisonnables. Attends. Où est-ce qu'il est, mon Pixel 4a? Il est dans le coin, je ne le trouve pas. Il est là. Ah non, mais les bordures, elles sont... Moi, j'ai pas allumé le téléphone, mais je vais l'allumer, mais... Les bordures du Pixel 4a, elles sont vraiment raisonnables, hein. Pour 400 balles, ton pote peut pas s'attendre à du haut de gamme non plus, hein. Et je lui dirais que l'avantage du Pixel 4a, c'est que tu peux effectivement... Le petit Graphene OS qui est présent. Yes, on aime. Parce que je suis en train de tester toujours, hein. Et... Non, mais les bordures... Mais ton collègue abuse. Les bordures, elles sont très raisonnables, hein. Au bout d'un moment, les gens veulent le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, quoi. C'est vraiment. Mais j'ai remarqué ça souvent. Quand j'essaye de conseiller des téléphones IRL, les gens sont chiants. Vraiment, les gens sont pénibles. Tu leur dis, tiens, je te conseille ça. Et en fait, souvent, ils en font un peu qu'à leur tête. J'ai vraiment eu ce ressenti très souvent. Où je conseille un truc, puis les gens, ils font, ah ouais, ok, machin. Et puis, ils n'achètent pas du tout un bon téléphone. Et après, un an plus tard, putain, mon téléphone, il lag et j'étais là. Bref. Il peut acheter un Wiko, mais non, pitié. Pitié, pitié, pitié. Au final, ils prennent des Samsung J. Ouais, mais c'est tellement un mauvais achat, je trouve. C'est pas la version 5G, j'ai vu qu'elles étaient moins grandes. Je suis d'accord. Je lui ai dit qu'ils pouvaient pas tout avoir à ce prix. Non, c'est pas une version 5G, mais la 5G, ça sert à rien aujourd'hui d'acheter un téléphone 5G, je trouve. La 5G ne va pas être vraiment déployé à 100%, enfin à un niveau raisonnable, avant au moins 3, 4, 5 ans, quoi. Les smartphones sont faits pour être changés, faites vos propres erreurs, puis revenez sur iPhone. Ton petit emoji, il est parfait. Bon, mesdames et messieurs, je vais vous laisser. Faut que j'aille bosser. Enfin, je bosse déjà là, en faisant le live, mais je veux dire, il faut que j'aille à mon taf. Donc, il économise un an, il prend 800 euros. En fait, Thomas, non. Le problème de ces personnes-là, c'est que je pense que son collègue, tu vois, est à l'état d'esprit de je ne mettrai jamais plus de 400 euros dans un téléphone. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment en mode je ne mettrai jamais plus de X euros dans un produit. Mais on l'est tous sur certains sujets. Moi, je le suis sur les fringues, par exemple, alors que je sais que ça vaut beaucoup plus le coup de mettre une grosse somme dans un vêtement pour qu'il dure longtemps. Mais c'est un prix plancher psychologique. C'est un prix vraiment très très psychologique et la personne, c'est pas un problème d'économie, je pense, dans son cas, c'est vraiment plus un problème de je ne veux pas dépasser 400 euros. Voilà. Bon, bref, On termine là-dessus. On se retrouve. Vous retrouverez demain Jérôme, toujours sur Twitch, pour vous faire le mug numéro donc 245. Je le répète, il y a des nouveaux emojis qui sont dispo. Donc, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à regarder hein, des petits emojis, notamment le petit emoji de Jérôme en sorcière qui, moi, me fait rire. Quittez pas trop vite. On va raid une personne. On va raid quelqu'un. Donc, on va aller. Voilà, on va aller raid pendant le générique de fin. Donc, je vous fais des gros bisous. Restez dans le coin si vous voulez découvrir bah, notre créateur. Je vais voir. Normalement, en général, on raid Corben parce qu'il stream à cette heure-là, mais on va voir s'il n'y a pas une autre personne à mettre en avant aussi. Voilà, des bisous tout le monde, ciao, et on se retrouve lundi, vous et moi, pour un stream photo. Ciao, ciao!